Vous écoutez, on lit pour vous.
La neurodiversité au bureau. Ce collègue différent qui vient tout bouleverser. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 19 octobre 2024 dans la presse. Les entreprises sont-elles prêtes à ouvrir leurs portes aux employés autistes? Il y a deux réponses à cette question. Oui, absolument. Et non, pas du tout. Et cela tient parfois pour la même organisation. À l'hôtel Le Reine-Élisabeth de Montréal, deux employés autistes travaillent dans la buanderie. L'entreprise veut embaucher plus de candidats issus de la neurodiversité. À la direction, on s'est toutefois rapidement rendu compte que si on voulait que ces nouveaux employés restent dans l'entreprise, il fallait bien faire les choses. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Déjà, le processus d'embauche peut devenir une barrière à l'emploi. Plusieurs candidats potentiels ne sont pas à l'aise avec l'entrevue classique. On y trouve souvent des questions très vagues. Une des pires choses, dit André Pereira de l'organisme À pas de géant, qui travaille avec les employeurs pour épurer ces démarches. Ça va bénéficier à tout le monde, précise André Pereira, pas juste aux personnes autistes. En effet, ces remises en question sur le processus d'embauche mettent en lumière des façons de faire qui ne sont pas optimales. Dans une entrevue, il faut être capable de décrire ce qu'on peut faire avec des mots. Ça demande donc une capacité d'abstraction. Certains autistes l'ont, d'autres ne l'ont pas. Il faut aussi être capable de le communiquer d'une manière compréhensible, détaille Valérie Martin, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM. Pourquoi est-ce que les entrevues sont faites dans ce format-là, se demande-t-elle. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un format où l'on démontre nos capacités dans un environnement réel? Au Reine-Élisabeth, on a revu le processus. On a adapté l'entrevue, dit Madeleine Laperrière, gérante expérience collègue pour Fermont, responsable du programme d'inclusion. Les candidats potentiels peuvent aussi faire le tour de l'hôtel pour voir qui sont les gens qui y travaillent, quelle est l'ambiance. Rencontré un samedi matin à la buanderie, Derek Selwood confie adorer son travail, malgré l'éclairage et les sons assez forts. Ça lui permet de rester en forme sans aller au gym, a-t-il ajouté. Le premier candidat autiste qui a fait l'entrevue était accompagné de son coach et ça a été un succès. Il a été embauché et, deux ans plus tard, il travaille toujours à la buanderie, un des rares services de l'hôtel qui ont un horaire stable, ce qui favorise le bien-être au travail d'employés pour qui l'imprévu est plus difficile à gérer. Madeleine Laperrière avoue que c'est la pénurie de main-d'œuvre qui a poussé les gestionnaires de Fermont à être créatifs et à s'ouvrir à la neurodiversité. Et le résultat? Toutes les choses qu'on a dû faire pour eux, on devrait les faire pour les autres candidats, confie Mme Laperrière, qui est catégorique. L'inclusion de la neurodiversité a été bénéfique pour l'établissement. Ça force nos leaders à être de meilleurs gestionnaires, à donner des consignes claires, à faire des suivis, à aller tâter le pouls et à demander « comment ça va aujourd'hui ?» C'est meilleur que n'importe quelle formation sur la diversité. Mais d'après elle, les projets d'inclusion ont assurément plus de chances de succès si les gestionnaires sont compétents et qu'on leur laisse le temps de bien faire les choses. Ce sont les meilleurs gestionnaires qui sont capables de gérer des employés autistes, parce que ça prend des gens capables de se remettre en question et qui vont adapter leur mode de gestion. Des cadres qui se posent des questions sur la façon dont ils transmettent leur message s'il n'est pas compris, plutôt que de blâmer celui qui le reçoit. Certains gestionnaires m'ont finalement dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas clairs lorsqu'ils donnaient leurs instructions, poursuit Madeleine Laperrière. Un suivi essentiel. Une fois l'employé engagé, il ne faut pas croire que les choses vont aller toutes seules. L'intégration est un exercice de souplesse, explique la chercheuse Valérie Martin. D'autant que les organisations standards ont été conçues par et pour des gens standards. Si on ne fait que changer le processus d'entrée pour qu'ils puissent rentrer dans l'organisation et qu'on ne change rien après, on crée des échecs, assure Valérie Martin, selon qui il n'y a pas que les gestionnaires qui doivent en profiter pour revoir leur façon de faire, mais l'ensemble de l'entreprise. Si on ne remet rien en question dans le fonctionnement d'une entreprise, on sera capable d'accommoder et d'accueillir des gens qui se distinguent peu de la norme, explique la chercheuse. Il y a des personnes autistes qui se distinguent moins de la norme, mais pour certaines personnes autistes, ça devient un problème. Plus on crée de la flexibilité dans nos entreprises, mieux c'est pour tout le monde. Vous écoutez La neurodiversité au bureau, ce collègue différent qui vient tout bouleverser. Le dévoiler ou non? Lorsque l'on sait peu frotter à la différence, certains comportements atypiques sont difficiles à comprendre. Ce qui nous amène devant la grande question. Faut-il divulguer ou non être autiste? Tous ne s'entendent pas sur cette question. Certains croient que de ne pas divulguer protège d'une possible discrimination. Or, dans certains cas, il est impossible de ne pas le dire. On voit dans nos études que si on est capable d'attribuer le comportement différent d'une personne à une condition, on risque d'avoir une perception plus favorable que si on ne sait pas pourquoi elle est différente, explique Valérie Martin. Comprendre ici. Il faut savoir que si un collègue répète continuellement la même chose, c'est peut-être un moyen inhabituel de tenter d'établir la communication. Des organismes travaillent avec des conseillers en intégration, que l'on appelle le job coach dans le milieu, qui accompagnent des recrues dans leur milieu de travail, notamment pour expliquer ces différences. Les collègues de travail sont souvent un facteur déterminant pour voir si la personne va garder son emploi ou non, dit Lily Plourde, présidente de la Fédération québécoise de l'autisme, qui déplore que l'on mette beaucoup d'efforts et de financement pour l'embauche, mais peu pour la suite. Surtout que l'environnement social au travail est essentiel, pour tous, particulièrement pour un employé autiste. Le patron a aussi un rôle crucial à jouer dans le maintien à l'emploi. Lily Plourde est catégorique. Un changement à la direction peut suffire pour qu'un employé quitte ou perde son emploi. C'est un scénario super fréquent, précise celle qui refuse que l'on idéalise l'inclusion en entreprise. Certaines personnes ne croient pas à l'inclusion. Les personnes autistes, souvent, ont des comportements différents de la norme et ne participent pas aux activités sociales. Elles peuvent être maladroites socialement, poursuit Lily Plourde, selon qui une mauvaise inclusion est pire qu'une tentative bien intentionnée et mal faite. Le psychiatre montréalais Laurent Motron est aussi de ceux qui laissent les lunettes roses pour d'autres occasions. Il y a le discours moral qui dit que c'est bien de le faire, l'intégration de la neurodiversité, et tout le monde est d'accord là-dessus, avance ce professeur au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Quand on intègre une personne autiste, il ne faut pas que ce soit factice. Il faut l'intégrer sous de véritables compétences, explique aussi Laurent Motron. Il faut accepter qu'elle est comme elle est, accepter sa typicité et tabler sur ses compétences, sur ce qu'elle est capable de faire. En sachant que pour récolter ses compétences, il va falloir beaucoup d'adaptation. Le psychiatre déplore qu'on louange les initiatives d'inclusion sur la place publique et dans les rapports annuels des organisations, mais que l'on manque de données sur les résultats quelques années après les embauches. Si la pénurie d'employés a incité les entreprises à s'ouvrir à la neurodiversité, sa résorption pourrait-elle avoir l'effet inverse? La chercheuse Valérie Martin le craint. La pénurie de main-d'œuvre non qualifiée vient de se terminer, rappelle-t-elle, et on voit déjà un recul. Neurodiversité et autisme. La neurodiversité est un concept très large et inclusif. Elle englobe autant des conditions telles la douance et la dyslexie que les déficits d'attention. L'autisme est une divergence cognitive. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental dont les manifestations sont larges, sur le plan de la communication notamment. C'est ce qui fait qu'on a très souvent du mal à comprendre et à reconnaître l'autisme. Il y a quelques années, on différenciait haut fonctionnement ou bas fonctionnement, précise André Pereira de l'organisme à Pas de Géant, qui souligne que l'on parle désormais davantage de niveau de fonctionnement. Demande un soutien important ou très important. C'était la neurodiversité au bureau, ce collègue différent qui vient tout bouleverser. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 19 octobre 2024 dans la presse.
Une place en garderie, une place dans la vie. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. Trouver un service de garde pour ses enfants, c'est plus difficile encore que de trouver une rue lisse à Montréal, de l'harmonie sur les réseaux sociaux, des professeurs dans les écoles, des infirmières sur la Côte-Nord, du fromage dans le Cheese Whiz ou de l'humilité chez Donald Trump. Alors imaginez trouver un service de garde pour ses enfants handicapés. Ils risquent de recevoir leur premier chèque de pension de vieillesse avant que vous le dénichiez. Il y a 30 ans cette année, 4 jeunes femmes ont mis en pratique la maxime « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Elles ont créé un service pour elles-mêmes et même pour les autres, appelé « Je me fais une place en garderie ». Une ressource montréalaise pour les parents qui souhaitent que leurs enfants âgés de 0 à 5 ans, ayant une déficience motrice, fréquentent une garderie. Quand ces parents tentent seuls de trouver un service de garde, ils essuient la plupart du temps une légion de refus. « Ce n'est pas notre vocation. On voudrait bien, mais on n'est pas équipé pour ça. On est complet. Bonne chance. » Leur chance, c'est JMFPG. Oui, je sais, le sigle prend de la place, mais c'est justement la mission de l'organisme, trouver de la place. Quand des parents désespérés font appel à « Je me fais une place en garderie » ou « JMFPG », donc, ils ne sont plus seuls. Une de ces intervenantes se rend chez eux pour entendre leurs besoins. Quand on est à part, chaque cas est un cas à part. Puis l'organisme se met en mode solution. JMFPG crée une grande chaîne d'entraide impliquant les parents, le service de garde et le réseau de la santé. Quand le service de garde accepte un enfant rencontrant des difficultés motrices, l'intervenante se rend aussi dans les installations pour aider l'équipe à adapter le milieu. Bref, on aide autant les parents que le service de garde, tout ça, bien sûr, pour le plus grand bien de l'enfant. En 2023, « Je me fais une place en garderie » a soutenu 134 familles. 89 % des enfants ont intégré un service de garde. Un taux de réussite de 89 %. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui peuvent se vanter de ça. Comment ai-je découvert cette grande œuvre? Il y a quelques jours, j'ai reçu dans ma boîte de courriel à la presse un envoi de Nathalie Dubot, l'une des intervenantes de JMFPG, me demandant joyeusement d'écrire aux membres de son équipe une carte pour leur 30e anniversaire. J'ai pris contact avec elle, été impressionnée par l'ensemble de leurs réalisations et eu envie de leur écrire la plus belle carte de fête qui soit pour les aider à aider. Parce que leur cause est vitale. Comme dirait Martin Saint-Louis, on ne sait jamais jusqu'où va le plafond de quelqu'un. Que ce soit celui de Lane Hudson ou d'un enfant handicapé. Une chose est certaine, quand un enfant handicapé est inclus dans le monde des enfants sans limitation physique, ça le stimule, ça lui donne des ailes et son plafond devient le ciel. Il n'y a pas que les enfants handicapés qui bénéficient de cette inclusion. Les autres enfants peuvent s'inspirer d'eux pour repousser leurs propres limites. Parce que tous les humains ont des limites, des combats, des montagnes à gravir, handicapés ou pas. de vivre avec des gens qui ne peuvent les fuir, qui doivent y faire face, dans notre face, est un plus. Les rôles s'inversent. Ce sont les enfants handicapés qui leur montrent le chemin, qui les poussent à se dépasser. Un médecin a déjà dit que tout se joue avant 6 ans. La mission de « je me fais une place en garderie » n'aidera pas ces enfants seulement le temps de la petite enfance. Elle les aidera toute leur existence à faire leur place dans la vie. Le précédent étant accompli, une barrière étant enlevée. Et les enfants qui auront inclus les enfants souffrant d'un handicap dès la petite enfance deviendront des adultes qui incluront les adultes souffrant d'un handicap dans le grand monde. Bref, une petite place en garderie, une place de géant dans la société. Joyeux 30e anniversaire à « Je me fais une place en garderie ». Les 4 jeunes femmes de 1994 sont maintenant 16. Toujours jeunes femmes. Oui, ce sont toutes des femmes. La bienveillance est un mot tellement féminin. Elles méritent qu'on les nomme. Christine Duquette, Valérie Benoît, Isabelle Charbonneau, Nathalie Dubot, Caroline Girard, Amina Lakhdar, Annie-Claude Rosten, Maude Lalumière-Cloutier, Annie Chagnon, Véronique Lisotte, Claudia Lisotte, Maria Vudon, Isabeau Lalonde, Nadine Joseph, Naomi Guerrier et Stéphane Souma. C'est bien beau une carte, mais ça prendrait aussi un cadeau. On peut s'impliquer, devenir membre, faire du bénévolat, faire un don. Les temps sont durs pour les associations qui font du bien. Et le cadeau perso des intervenantes? C'est le sourire des enfants et le soulagement des proches. C'est quand des parents leur écrivent qu'un soir, quand leur fils multi-handicapé est rentré de la garderie, ils ont trouvé dans son sac à dos une carte d'invitation pour aller à l'anniversaire d'un autre enfant. Il y a des anniversaires qui changent une vie. Il y a des anniversaires qui changent des vies. C'était Une place en garderie, une place dans la vie, un texte de Stéphane Laporte, paru le 13 octobre 2024 dans la presse.
Recrutement de 17 médecins de famille sur la Côte-Nord. Objectif réaliste et suffisant? Un texte de Nasdar Roy, paru le 25 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord. Québec a dévoilé récemment les nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux, PREM, pour l'année 2025, qui prévoit l'ajout de 17 places pour le recrutement de médecins de famille sur la Côte-Nord. Ce nombre est toutefois insuffisant et cette annonce ne garantit pas l'arrivée de nouveaux professionnels de la santé dans la région qui est déjà aux prises avec de difficultés de recrutement selon des médecins du réseau. Les patients orphelins de la région ne doivent pas se réjouir trop vite de cette annonce selon le chef du département régional de médecine générale du CI3S de la Côte-Nord, Roger Dubé. Ça comble à peu près la moitié des besoins, parce qu'on a un manque à gagner de 30 médecins de famille sur la Côte-Nord, a-t-il expliqué au micro de Bonjour la Côte. De nombreux médecins prennent leur retraite et le nombre de finissants en médecine n'est pas suffisant pour les remplacer, selon Roger Dubé. Ainsi, même si le CI3S de la Côte-Nord a recruté 13 nouveaux médecins de famille l'an dernier, le gouffre continue de s'élargir. D'une année à l'autre, le bilan net sur la Côte-Nord est probablement de 3 ou 4 médecins au total, précise Roger Dubé à propos du recrutement de nouveaux médecins. Les patients orphelins sont plus de 4 000 sur la Côte-Nord, selon ce médecin de famille de Baie-Comeau, ce qui représente tout de même une diminution par rapport aux 8 000 patients orphelins en 2022. Roger Dubé constate toutefois que ce chiffre est de nouveau à la hausse. Une partie de « Cherche et trouve ». Roger Dubé explique que le nombre de médecins annoncés dans les PREM représente une cible de recrutement qui ne se traduira peut-être pas dans la réalité. Il faut trouver ces nouveaux médecins-là, lance le médecin de famille. Il ajoute que l'équipe de recrutement du CI3S met les bouchées doubles pour attirer de futurs médecins dans la région. On essaye d'être présent surtout dans l'enseignement auprès des stagiaires, des étudiants en médecine et des résidents pour les intéresser aux régions. Je dirais que c'est notre meilleur outil de recrutement. Les médecins qui sont venus sur la côte, c'est ceux qui ont vu les équipes et la pratique de la région, met en lumière Roger Dubé. La pratique polyvalente caractéristique des régions attire notamment des médecins en devenir. Les avantages sociaux et la facilité à s'installer dans une région pèsent également dans la balance. Avec les informations tirées de l'entrevue réalisée par Madeleine Ross à l'émission « Bonjour la Côte ». C'était « Recrutement de 17 médecins de famille sur la Côte-Nord, objectif réaliste et suffisant », un texte de Nasdar Roy, paru le 25 septembre 2024 sur « Ici, Côte-Nord ».
Québec consacre plus de 900 millions à la protection de la nature. Un texte d'Alexandre Shields paru le 7 octobre 2024 dans Le Devoir. Le gouvernement Legault a confirmé lundi le 7 octobre 2024 des investissements de plus de 900 millions de dollars qui seront consacrés à la protection de la nature et de la biodiversité au cours des prochaines années. Des écologistes pressent toutefois Québec de réviser en profondeur les lois censées protéger les dizaines d'espèces menacées qu'on trouve dans la province. Après avoir essuyé des critiques pour sa gestion environnementale du projet de Northvolt, et tandis que l'affrontement avec Ottawa se poursuit dans le dossier du caribou forestier, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charrette, a invité lundi les Québécois à agir dès maintenant, afin de préserver notre belle nature, si essentielle à la vie. Selon les informations publiées par le gouvernement, une enveloppe totale de 922 millions de dollars est prévue pour la mise en œuvre d'un plan d'action 2024-2028 qui s'inscrit dans le cadre du Plan Nature 2030, conçu pour respecter les engagements pris à la Conférence mondiale de la biodiversité, COP15, de Montréal en décembre 2022. Un total de 466 millions servira à augmenter la superficie des aires protégées dans le sud du Québec, mais aussi à restaurer des milieux naturels et à tenter de mieux protéger les espèces menacées ou vulnérables. Le gouvernement a d'ailleurs évoqué, en conférence de presse, l'agrandissement potentiel de 5 parcs nationaux, dont celui du Mont Orford, du Mont Saint-Bruno et des îles de Boucherville, et la protection de nouveaux territoires. Ces projets ne se retrouvent toutefois pas dans les documents publiés le 7 octobre 2024. Une autre enveloppe de 360 millions de dollars servira notamment à améliorer l'accès aux milieux naturels, et une somme de 95 millions de dollars est prévue pour impliquer différents partenaires dans la protection du riche patrimoine naturel du Québec. Avec ce budget record de près de 1 milliard de dollars annoncé aujourd'hui par notre gouvernement, je suis certain que nous serons capables de concrétiser la vision ambitieuse qui est au cœur du Plan Nature 2030, celle d'un Québec où l'on protège, restaure et utilise durablement le patrimoine naturel de façon à préserver la biodiversité et ses fonctions écologiques, tout en améliorant la qualité de vie de la population, en lui offrant un meilleur accès à la nature, a fait valoir lundi Benoît Charrette par voie de communiqué. Espèces menacées et gestion de la forêt. Le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Bronchoux, a salué la publication de la « feuille de route » que représente le plan Nature 2030. Son organisation presse cependant le gouvernement de revoir en profondeur la loi sur les espèces menacées ou vulnérables de façon qu'elle permette de freiner le déclin qui frappe plusieurs espèces fauniques et floristiques. M. Branchou estime que Québec pourrait s'inspirer de la loi sur les espèces en péril du fédéral qui prévoit des mesures concrètes de protection de l'habitat essentiel et des dispositions pour empêcher la destruction de ces habitats nécessaires à la survie d'espèces menacées. Selon les données officielles, on compte au Québec 37 espèces fauniques désignées menacées, 28 vulnérables et 115 espèces susceptibles d'être ainsi désignées. On recense aussi 59 espèces floristiques désignées menacées, 18 vulnérables et 433 espèces susceptibles d'être ainsi désignées. Nature Québec juge pour sa part que l'aménagement forestier est l'angle mort du plan Nature. L'organisation rappelle que 92% de la forêt québécoise est en terre publique et que le déclin alarmant des populations de caribous, forestiers et montagnards est le signe que la gestion de la forêt n'est actuellement pas durable, contrairement à ce qui est affirmé dans le plan. Le plan Nature, présenté aujourd'hui, est globalement cohérent, mais évite sciemment l'enjeu de la gestion des forêts. Une réforme du régime forestier est essentielle si Québec souhaite véritablement protéger la biodiversité et doit s'accompagner d'un plan de transition juste, co-créé avec les différentes parties prenantes, afin de soutenir les travailleurs qui pourraient s'en trouver impactés, a fait valoir Marie-Audrey Nadeau-Fortin, analyste biodiversité chez Nature Québec. Le gouvernement Legault a pris l'engagement de protéger 30% des milieux naturels du Québec d'ici 2030. Selon les données officielles, environ 17% du territoire naturel terrestre du Québec est actuellement protégé, soit environ 257 000 km². En ce qui a trait aux milieux marins, on parle d'environ 10%, avec un peu plus de 16 000 km². Cela signifie que le Québec devra ajouter plus de 200 000 km² de territoire terrestre protégé d'ici la fin de la décennie, mais aussi au moins 30 000 km² de territoire marin protégé. C'était « Québec consacre plus de 900 millions à la protection de la nature », un texte d'Alexandre Shields paru le 7 octobre 2024 dans Le Devoir.